Allez. Ça.
Ok, ok.
Wow. Donc là, vous avez Nicolas.
Nicolas, il est technicien à Radio France.
Bonjour.
Et il a notamment été, même encore aujourd'hui, technicien de reportage.
On a beaucoup travaillé ensemble.
On a beaucoup travaillé ensemble. Ouais. Technicien de reportage, c'est celui qui accompagne les journalistes en reportage pour faire des prises de son, comme je vous disais. Donc vous voyez, avec les micros, on fait des interviews, mais on fait aussi ce qu'on appelle les prises de son, les sons d'ambiance, parce qu'à la radio, on n'a pas l'image, donc il nous faut un maximum de son. Donc là, par exemple, on a le son des oiseaux, le chant des oiseaux, un petit peu, mais on n'a pas beaucoup de son. parce que le lycée est assez vide. Vous êtes prêts? Alors attendez, donc il y a Leïla, Assia, Souand, Jessica, Rose, Younes, Sheikh, Chelsea, Inde.
Voilà.
Et il fait quoi? Ah, Vincent, on attendait Vincent.
France Inter, Interclasse.
C'est pas normal pour une femme quand elle sort le soir de s'inquiéter, d'avoir peur, et alors qu'un homme il est tranquille quand il sort le soir. Elles ont peur d'être interpellées dans la rue juste parce qu'elles ont mis une jupe ou un truc où on voit un peu leur peau. Changez un peu votre mentalité parce qu'il n'y a que les ânes qui changent pas d'avis. On s'en fout de ce que vous pensez de nous, on fait ce qu'on veut.
France Inter, Interclasse. Lycée Voillaume à Aulnay-sous-Bois.
Par ici, c'est Aulnay-Miami. C'est chic, il y a plein de pavillons, c'est super. L'autre côté, c'est Chicago. Là-bas, c'est la pègre. C'est triste, mais c'est comme ça.
Micheline ne mâche pas ses mots pour parler d'Aulnay-sous-Bois, ville de Seine-Saint-Denis, pile entre Paris et Roissy, et ville coupée en deux, raconte Brigitte.
Ah bah, il y a le Aulnay-Sud, la gare, etc., les commerces, et les Aulnay-Nord, où il y a la cité complètement enclavée, quoi. Il y a vraiment la frontière de la gare, quoi. Les rails du train et l'autoroute.
Ces jours de marché, aujourd'hui au sud d'Aulnay, les étals tout le long d'une grande rue piétonnisée et pavée, à l'abri du soleil, sous les arbres. Brigitte regrette le manque de mixité.
Il faudrait pouvoir aller plus vers des quartiers, leur montrer autre chose, des deux côtés de la ville. Mais Aulnay-Sud, je ne crois pas que les gens soient prêts à aller vers le nord. Ça me paraît délicat.
Cette habitante d'Aulnay a fréquenté à la fin des années 70 le lycée Voilôme, au nord de la ville, où sont aujourd'hui étudiantes Inde et Chelsea, respectivement 15 et 16 ans, consciente, elle aussi, de cette scission dans leur ville.
Je suis bien où j'habite, mais si je pourrais déménager à Aulnay-Sud, il n'y a pas de problème.
Ouais, en gros, ça me dérange pas.
Voilà.
Ça me dérange pas.
C'est tout le bruit, en fait. À Aulnay-Nord, il y a plein de bruit. Et à n'importe quelle heure. Enfin, les gens, ils n'ont pas de respect envers les habitants de la ville, que ce soit les bruits des motos.
En été, là.
Tout le temps, des bruits des motos, que ce soit des fois des voitures, ça klaxonne, des scooters, ou même des gens comme nous qui passent, qui crient comme ça dehors.
Les deux adolescentes regrettent cette image d'Aulnay-Nord et des cités, en général représentées dans les films, les séries, les informations, comme une zone de non-droit, selon elles.
Franchement, c'est normal, hein. C'est pas chaud comme on voit à la télé et ouais, tout ça.
Ouais. Ils abusent de la cité, alors que c'est pas... Il y a des choses graves, entre guillemets, qui se passent dans les cités, mais à la télé, ils abusent de la chose.
Comme si c'était un quotidien ou quoi, alors que pas du tout, en fait.
Ouais, moi, j'habite aux 3000 depuis que je suis née, et franchement, je trouve que c'est normal. Après, c'est chaud un peu, comme ils disent, c'est vrai que ça l'est un peu, mais franchement, ça va.
Ça veut dire quoi, chaud?
Bah, par exemple, on voit beaucoup la police. Après, des fois, il y a des émeutes, entre guillemets. On voit aussi des courses-poursuites, des bagarres, ouais, plein de petits trucs comme ça. C'est pas rarement... Mais c'est pas beaucoup, enfin, c'est pas beaucoup.
Aulnay-sous-Bois sur le devant de la scène après l'interpellation controversée par la police de Théo en 2017. Et la ville vit un autre moment symbolique depuis décembre, la destruction de l'emblématique barre d'immeuble, le Galion.
Le Galion, pour les gens des 3000, c'est leur monument, c'est la tour Eiffel d'Aulnay.
C'est la référence.
C'est la référence d'Aulnay, en fait. La cité, vraiment, c'est derrière le Galion. En fait. Même il y en a qui disent c'est le zoo derrière le Galion.
Mais bon, ce ne sera plus. Hein.
Moi, je pressais qu'ils le détruisent.
Ouais, même moi.
C'est sale. Franchement, il était temps.
Ça fait des années en plus qu'ils disent qu'ils vont le détruire. En plus,
je pense que ça va être
du Grand Paris. Je pense que Aulnay va être plus revalorisé en plus.
Le Grand Paris Express, projet de transport que Inde et Chelsea attendent avec impatience et qui leur permettra peut-être, après le lycée, de pouvoir se déplacer plus facilement pour leurs études et leur travail.
Je suis ici pour engager une conversation ouverte sur le SEXE.
Oh, j'aurais aimé que ma mère soit gourou du sexe.
Et si pour commencer, vous me racontiez votre plus ancien souvenir concernant votre scrotum?
Non, crois-moi.
Il s'agit d'une nouvelle frontière, mon pote sexuellement refoulé. C'est enfin notre chance de remonter la chaîne alimentaire sociale. Je m'inquiète pour toi, mec. Tout le monde pense à s'envoyer en l'air. Ou ils projettent de le faire. Ou ils le font pour de bon.
On est au CDI avec Mathéo, Souel, Farida, Doren, Delia et Emmanuel qui ont fait un reportage sur la sexualité des adolescents. Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu comment vous en êtes venu à choisir ce sujet ?
On rentre dans l'adolescence. C'est le moment où tout le monde commence à avoir des petits copains, des petites copines. Du coup, la question, bien sûr, qu'on se la pose.
On a choisi ce sujet parce que c'est un sujet tabou. Et il y a peu de personnes qui en parlent, donc on voulait en parler pour détabouter ce sujet.
Détabouter, c'est joli. Mais c'est tabou chez qui ? Chez les adultes, chez les ados ? Est-ce que vous, vous en parlez entre vous ?
Entre nous, oui, on en parle, mais c'est les adultes et les enfants, bah, c'est assez tabou.
Toi, par exemple, est-ce que tu en parles avec tes parents ?
Non.
Vous en parlez entre copains ?
Oui,
plutôt. Bah, c'est ce qui nous informe, parce que c'est pas nos parents qui vont nous informer.
Pourquoi pas ?
C'est gênant.
Je vous propose qu'on écoute votre reportage et puis qu'on reprenne le débat après ?
D'accord.
Okay. Oui, okay. Ça marche.
Comment les adolescents vivent-ils leur sexualité ? Un matin, à la gare du Nord, on est allé à leur rencontre. Et on a d'abord posé la question à Romain, 19 ans.
Pensez-vous que c'est un sujet tabou ou pas ?
Ça arrive pour tout le monde, donc il n'y a pas à avoir de tabou.
Cynthia, 23 ans, a eu beaucoup de mal à en parler avec ses parents quand elle était ado.
J'ai grandi dans une famille africaine et c'est un sujet assez tabou d'en parler. Avant un certain âge, donc avant le mariage, tu peux pas, on ne parle pas du sexe, etc. Et là, les parents, on parle, ou bien la maman parle avec la fille ou le papa parle avec le garçon.
Pour Adassa, il faut être éduqué sur le sujet.
Si tu sais pas, t'arrives là-bas, t'es bancal, quoi.
Après avoir parlé avec des jeunes, on a rencontré des parents. Et Christophe, pour qui le sexe n'est pas tabou, mais qui a choisi ses moments pour en parler avec son fils.
Ah, c'est sûr qu'on peut pas aborder ça à n'importe quelle occasion. Il faut qu'il y ait un contexte. C'est sûr que c'est pas le genre de discussion qu'on va avoir à table en famille, quoi. Ça reste quand même assez intime.
Sandrine est très investie dans l'éducation sexuelle de sa fille.
Comment s'appelle cette série qu'elle regarde et dont elle m'en parle ?
Sex-éducation.
Ce qui fait que moi-même, j'ai commandé le livre, en fait, Sex-éducation, pour le mettre entre les mains de ma fille qui a 15 ans. Voilà. Donc, non, c'est pas un sujet tabou. Et à ma génération, c'était tabou. Donc, je trouve ça vraiment bien que maintenant, on puisse en parler librement et expliquer aux filles et aux garçons de jamais être sous l'influence de quelqu'un et de faire ses choix, en fait.
Serge Ephèse est psychiatre. Il reçoit dans un hôpital parisien des adolescents qui ont du mal dans leur sexualité. On le rencontre dans son cabinet dans le 3e arrondissement de Paris. Il y a une grande bibliothèque, un canapé pour le patient et un fauteuil pour le psychiatre.
On lui a demandé s'il y a un âge idéal pour avoir son premier rapport sexuel.
Non, je pense pas qu'il y a d'âge idéal parce que chacun est différent. L'âge idéal, c'est l'âge où on se sent bien pour le faire. Alors c'est vrai qu'il y a des jeunes gens qui vont se sentir bien pour avoir un rapport sexuel à 14-15 ans, d'autres qui vont trouver que c'est très tôt et qui sont encore des enfants à cet âge-là et leur âge idéal ça va être 18, 19, 20, 22 ans, peu importe. Ce qui est le plus important je crois en matière de sexualité, c'est de se dire qu'il n'y a pas de normes, c'est d'écouter qui on est, c'est d'écouter son corps, ses envies et de faire en fonction de ça.
S'il n'y a selon Serge Ephèse pas d'âge idéal, la notion de consentement est, elle, très importante.
C'est fondamental, cette question du consentement, elle est devenue fondamentale aujourd'hui parce que c'est la question qui est le plus liée justement à l'égalité entre les filles et les garçons en matière de sexualité. Pourquoi ? Parce que traditionnellement et depuis toujours, les hommes sont définis comme étant conquérants et les femmes comme repoussant les avances des hommes dans un premier temps pour être des filles bien. Voilà, c'est comme ça qu'on s'est représenté ce que c'était qu'une fille et un garçon. C'est-à-dire que c'est comme si les filles, au fond, elles n'avaient pas de désir, qu'il n'y avait que les hommes qui désiraient, devaient pousser les filles dans leur retranchement, qui devaient dire non, 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 jusqu'à ce qu'elles disent oui. Voilà, ça c'est la représentation très traditionnelle des rapports entre les garçons et les filles. Et puis aujourd'hui, ça change, et tout le monde a envie que ça change, c'est-à-dire qu'une fille, elle peut dire oui ou non, et que si elle dit oui, ça reste une fille bien, et que si elle dit non, ça reste une fille bien, et que si elle dit non, ça veut dire non. Et ça veut pas dire, c'est pas un oui qui se cache, c'est pas un non pour dire « Ah ben je suis une fille bien, mais j'ai bien envie », mais c'est non. Et que quand elle dit oui, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que c'est son envie à ce moment-là et qu'on peut l'écouter. Et un garçon aussi, il peut dire oui ou non. Parce que si les filles disent oui ou non, ça veut dire que peut-être elles vont être plus offensives et qu'elles vont être plus draguées et qu'à ce moment-là, les garçons, ils sont pas obligés de répondre non plus. Ils peuvent dire oui ou non selon leur désir. Et ça, je trouve que c'est une belle égalité parce que ça veut dire qu'on peut se choisir et surtout on peut être sûr qu'on a envie de se faire plaisir ensemble.
Pour Serge Fez, parler de sexe avec son enfant, c'est accepter de le voir devenir un adulte. Et c'est loin d'être facile pour tout le monde.
Il y a une pudeur entre les parents et les enfants. Cette pudeur, c'est que les parents, ils ont envie de considérer leurs enfants toujours un peu comme des petits enfants, comme des petits anges. Hein, ils ont envie que les enfants restent un peu comme des bébés. Ils ont du mal à les voir grandir. Et moi aussi, j'ai du mal à voir grandir mes fils. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, effectivement, il y a quelque chose qui nous échappe. Et ces petits anges, tels qu'on a envie de les voir, eh ben, voilà, ça devient des personnes qui sont aussi traversées par les questions de sexualité. Et ça, beaucoup de parents ont du mal à le voir. Et les ados, ils sentent que pour leurs parents, c'est un sujet difficile.
L'important pour nous, adolescents, c'est d'en parler entre amis pour s'informer et ne pas être seul face à toutes ces questions.
On vient d'écouter votre reportage et à la fin du reportage, Serge Fez, il parle de la notion de consentement que vous avez voulu aborder avec lui. Pour vous, c'est quoi le consentement ?
C'est quand les deux personnes, elles sont d'accord.
Après, la fille peut peut-être forcer. Dire oui, mais ne pas en avoir envie.
Voilà.
Donc, voilà.
Ça peut aussi
comme les garçons, on peut dire ça aussi.
Elle peut très bien commencer et ne pas vouloir terminer.
Ok, mais pourquoi elle a voulu commencer si elle savait déjà au préalable qu'elle allait s'arrêter à un moment donné ?
Se rendre compte que finalement, elle n'a plus envie.
Sachant que du coup, après les garçons, ça va pas le frustrer, mais enfin, il va vous dire, vas-y, flemme, tu vois. En mode,
elle joue.
Ouais, voilà, pourquoi parler avec elle si
mais
c'est
est-ce
pour...
qu'une fille,
c'est
elle
ça
a pas
aussi, mais si au début, elle se sent prête et qu'après, elle se rend compte qu'elle n'est pas prête.
Bah oui, est-ce qu'une fille ne peut pas pouvoir
et
séduire et puis sans aller jusqu'au bout parce qu'elle se rend compte qu'elle n'est pas prête.
Elle peut avoir peur aussi.
Ouais.
Les garçons, qu'est-ce que vous en pensez? On vous entend pas. Cette notion de consentement, pour vous, elle est importante?
Je pense qu'elle elle est encore plus importante pour un garçon.
Je sais pas.
Donc tu serais capable de violer une fille alors, si tu sais pas?
Non, tu parles de quelque chose de...
Bah non, mais bah, la question c'est, pour toi, c'est quoi le consentement?
Un accord.
Elle peut très bien faire semblant d'être d'accord. C'est à toi de voir si la personne, elle est à l'aise ou pas. Si ouais. Tu vois qu'elle n'est pas à l'aise, tu vas pas le faire.
En vrai, c'est juste pour te faire plaisir, mais en soi, elle en a pas envie peut-être.
Mais non.
Attends, une fille a moins de force qu'un garçon, ça on le sait. Donc attends, une fille, elle a peur de se faire taper par un garçon. Donc forcément, elle va dire pour éviter que ça dérape, ben ok, je vais dire oui.
Ou alors...
Mais elle a réussi à le dire trois fois.
Ou alors non, le garçon lui met la pression et elle ne veut pas le perdre.
Tu mets la pression sur elle.
Ouais, tu mets aussi une pression sur elle, donc à un moment
donné... Est-ce que parce qu'une fille dit oui, ça veut dire qu'il y a un consentement de la part de cette fille?
Non.
Ça veut dire quoi?
Vous êtes des futurs psychopathes,
futurs violeurs.
Mais, non, regarde, imagine c'est par distance.
Mais si c'est par distance, la fille, elle est amoureuse.
Oh, là, imaginez.
Mais regarde, c'est pas. Ouais, c'est
pardon.
Un message, ouais.
Non, pardon. S'il vous plaît.
Par exemple, si elle dit oui parce qu'elle a peur de se faire quitter.
Non, mais si elle dit oui parce qu'elle a peur de se faire quitter et elle vient parce qu'elle tient à toi et qu'elle veut pas, elle veut pas que tu la quittes et que tu lui as mis un coup de pression. Donc en soi, on date.
C'est pas du fait.
Après, ça dépend si le gars c'est un bâtard ou pas.
Bon, changeons de sujet de conversation, vu que vous n'êtes visiblement pas d'accord, garçons et filles.
Je pense que c'est surtout parce que certaines filles ne sont pas au courant qu'elles ont le droit de refuser ou que... elles ne connaissent pas tout, du coup. Elles ne sont pas informées sur le sujet, justement, à la base du sujet. Il y a énormément de filles qui ne sont pas au courant de ce qu'elles peuvent faire, dire non, dire oui. Enfin, elles pensent que c'est un devoir.
Voilà, parce que tu es avec lui, tu es obligée de le faire quand il te le demande. Enfin, elles oublient qu'elles sont pas des objets en fait. Donc si t'as pas envie, tu dis non. Et s'il est pas content, bah il est pas content.
Booba sur Inter. DKR, un choix des élèves du lycée Wallaume d'Aulnay-sous-Bois.
Qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. J'ai maillé déjà. J'ai pas baillé, fait des dégâts. Tyson Gribord de Bombardier. J'vais te casser le dos, pas te marier. Me tiens pas la main, ça va parler. J'ai déjà le ballon baissé sur le palier. Comme Audrey Tchamé, oh j'suis médaillé. Vamos los negros, allez d'aller. La cuenta fut très très salée. Ta Allah, j'vais la faire chialer. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler. Ton nom de famille sera prise d'otage. À quoi sert d'être lion en cage?
Envoie le H, les millions cash. Oh maé, maé, maé. Madame la juge est lente de rage. J'ai mitraillé comme un sauvage. C'est pas le quartier qui me quitte. C'est moi, je quitte le quartier. J'ai maillé, maillé, maillé déjà. J'ai bataillé, taillé, fait des dégâts. Je n'entends pas toutes ces hyènes. J'suis pas en plein de thieboudienne. Même noir, j'pourrais rougir de haine. Esclave n'a pas de remise de peine. Ceux qui ne veulent pas faire de business, je vous en prie, descendez là. Le cours de tâche n'est qu'est en baisse. Serre-moi un shot de Mandela. Africa, tu n'as pas d'âge. Ils veulent te mailler, mailler, mailler. Ton enfant, il sera pris d'otage. À quoi sert d'être lion en cage? Envoie le H, les millions cash. Pour mailler, mailler, mailler. Madame la juge est lente de rage. J'ai mitraillé comme un sauvage. Lion de la terre en Gaïa R, j'ai fait ce qu'il fallait, fallait. Sénégal, DKR, génération boule, fallait, fallait. Il aimait l'Afrique, mais la moulin l'a poussé à tailler, tailler. Passe-moi les masses à Mamakosa, FLO, Mara, Salvatrocha. Oh, négro n'a pas vraiment de shot. Le boule est plat, tu ne fais pas vraiment de squat. Pour toi, j'ai formule adéquate. Hypercute de gauche et droite. Tyson Gribard de bombarder. J'vais te casser le dos. Et la branche a trop accéléré. Elle a gâté l'euro. Première roue arrière et des mers. J'ai changé le port. Je suis pirate donc loup de mer. Je peux te montrer l'écran.
Nous sommes avec Naslata, Yasmine, Ajar et Joyera autour de cette table. Et il y a un sujet qui s'est vite imposé au sein de notre groupe. C'est celui de l'homophobie et de la transphobie. Si ces élèves estiment être assez éloignés de ces problématiques ici à Aulnay, elles n'en sont pas moins choquées par les discriminations et les agressions envers les personnes LGBT+. Alors ensemble, nous avons décidé d'aller à la rencontre des premiers concernés et de contacter l'association Le Refuge. Elle prend en charge des jeunes LGBT de 18 à 25 ans qui ont été rejetés par leur famille précisément en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. En plus d'un accompagnement social, médical et juridique, c'est un toit qu'offre l'association à ces jeunes adultes dans toute la France. À Paris, ils sont une vingtaine à être hébergés dans les appartements du refuge. Nous avons rencontré par écran interposé l'un d'entre eux et ceux qui les accompagnent vers l'autonomie.
Marley a trois passions, le skateboard, le dessin et le tatouage. C'est un jeune de 21 ans très souriant. Sa différence ? Marley est un homme trans. Il s'est toujours senti en décalage avec son sexe biologique féminin. Il y a un peu plus d'un an, sa vie a basculé. Ce jour-là, il a pris son courage à deux mains pour assumer sa transidentité à ses proches.
J'ai grandi avec mon père et ma sœur. J'ai vécu des rejets par rapport à ma transidentité, par ma famille tout entière.
Chassé du foyer familial, Marley a trouvé refuge au refuge. D'abord hébergé en colocation, il vit aujourd'hui dans une studette de 9 mètres carrés dans l'ouest parisien. Il s'estime chanceux. L'accompagnement par les bénévoles de l'association l'a sauvé.
Ils apportent beaucoup de choses, je dirais beaucoup de soutien, de compréhension, de patience et d'amour aussi. C'est comme une grande famille.
Pour accompagner les jeunes dans leur parcours, le suivi par des psychologues est essentiel. André Luisin, spécialiste des adolescents et des jeunes adultes, anime tous les 15 jours des séances collectives auprès des jeunes LGBT hébergés par le refuge.
Mon rôle, c'est justement de proposer et d'animer aux jeunes hébergés par l'association des groupes de parole. Comme je disais, où on va travailler l'affirmation de soi, l'expression des émotions, donner aux jeunes un temps de parole pour qu'ils me disent un petit peu comment ils se sentent, comment se sont passés le temps où on ne s'est pas vu, quelles ont été leurs réussites, qu'est-ce qui a pu les mettre en difficulté. Des jeunes avec qui la relation de confiance, en tout cas, ça va être primordial de travailler dessus. Et peut-être qu'avec certains jeunes du refuge, elle va mettre plus de temps à s'établir qu'avec quelqu'un qui n'aurait pas vécu le rejet familial et d'autres formes justement d'abandon. Ils doivent sentir qu'on est là et qu'on ne va pas les lâcher.
Depuis la création du refuge en 2003, 8500 jeunes LGBT ont été pris en charge par l'association. Selon Olivier Rouchon, délégué régional adjoint du refuge, d'année en année, les appels ne font qu'augmenter.
Sur l'année 2019, 7000 appels sur la ligne d'urgence. Je me retrouve à la rue où je suis à la maison, mais j'ai peur. Mon père me fracasse, ma mère me fracasse, psychologiquement, physiquement. C'est une violence énorme. Parce que par exemple, tu vois, en ce moment, le refuge Paris est complet. Quand c'est complet, alors après, bon, on a de l'hôtel social, des hébergements d'urgence, mais effectivement, il y a des listes d'attente. Je me rappelle une petite anecdote. Il y a 4 ans de ça, au mois de novembre, tous les bénévoles reçoivent à 17h un SMS en disant « Est-ce que vous n'auriez pas une vieille couverture qui traîne ?» Une couverture que vous n'utilisez pas. Moi, ça m'a 17h, je dis « C'est quoi ce délire ?» J'appelle la personne, la responsable, je lui dis « Mais c'est quoi cette question-là » Ah, Olivier, on a une jeune fille, c'est complet chez nous, on a tout fait, les hôtels sont complets, on a tout fait. On travaille depuis ce matin, il est 17h, on a appelé les services sociaux, les autres associations partenaires. Chez nous, c'est complet, les hôtels sont complets, on sait que ce soir, elle dormira à la rue. Donc si parmi vous, parmi les bénévoles, il y a une âme charitable qui a une couverture en bon état, bien évidemment, mais qui ne se sert plus, voilà. Enfin, je peux te dire, ça refroidit.
Malgré des avancées sociétales comme le mariage pour tous, il y a donc toujours plus de jeunes en détresse. Olivier Rouchon dresse d'ailleurs un constat.
Dans la population, il y a une homophobie décomplexée. On a constaté ça, c'est que les gens ont de moins en moins de tabous pour exprimer le rejet de l'autre. Nous, le refuge, on ne voit que par l'éducation. C'est vraiment un travail de longue haleine, c'est de la sensibilisation, et plus on en fera, plus on fera tomber les clichés et les jugements de valeur, et petit à petit, l'oiseau fait son nid.
Un reportage réalisé par Yasmine Lacheheb,
Naslata Ismail,
Johura Khan, Ajar Nakrouz, Mariam Kamara et Jasra Feroz Khan, encadrés par Elodie Wilfried de France Inter.
Alors ce sujet de reportage, c'était votre idée à toutes. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué maintenant dans ce reportage, après coup ?
Certains parents découper les cartes vitales et les passeports et les cartes d'identité à leurs enfants. Ils ne savaient pas comment refaire leurs papiers, c'était grave difficile pour eux.
C'est-à-dire qu'ils ont été jetés à la rue, sans leurs papiers. Qu'est-ce qu'on a eu comme difficulté, nous, pendant ce reportage ? Ou plutôt, qu'est-ce qui vous a le plus plu ?
Ce qui m'a plu, c'était d'interviewer Marley, interagir avec lui, l'écouter, et en apprendre davantage sur lui, parce que je trouve ça très courageux de sa part de se confier à nous.
Yasmine, avec le confinement, c'était pas forcément facile pour nous de suivre le projet. Pendant quelques temps, on s'était pas parlé, mais vous êtes quand même accrochée. Qu'est-ce qui vous a poussée à rester motivée ?
Déjà, avec le confinement, au début, on devait faire une sortie à la maison de la radio, mais ça n'a pas pu être possible. Et donc ça m'avait un peu démotivée. Mais quand on avait repris contact et on avait dit qu'on allait quand même continuer le projet, ça m'a motivée. Je me suis dit que ça va quand même avoir lieu, même si on ne peut pas se retrouver à la maison de la radio ou au refuge.
C'était bien quand même la visio ?
Ah oui, c'était bien. C'était pas... Après, j'aurais aimé aller au refuge quand même et parler en face à face, mais c'était bien.
Merci à toutes. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve un peu plus tard dans la cour du lycée, où on va parler d'un autre sujet, d'une autre discrimination, d'une autre forme de discrimination qui vous tient à cœur. C'est le sujet du sexisme.
À vous descendre. Ils vont vite. Les miens montent, madame. Il leur faut plus de temps.
Mais ils montent bien mieux depuis quelques instants.
De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude.
Alors avec nous, Rose, Asia et Leïla. Alors vous avez décidé de, comme thème de reportage, de parler d'un théâtre, le théâtre du Rond-Point. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce thème ?
Parce que dans un théâtre, on voit juste ce qu'ils veulent nous montrer. On voit pas ce qui se passe dans les coulisses, les costumiers, les éclaireurs et tout et tout.
Alors, on n'a pas pu rencontrer autant de gens qu'on voulait parce qu'on a été pris par le confinement, mais on est quand même allé au théâtre du Rond-Point et on a rencontré le directeur de ce théâtre, Jean-Michel Ribes, qui nous a accordé cet entretien qu'on va écouter.
En quoi consiste votre métier de directeur du théâtre ?
Il y a plusieurs types de directeurs de théâtre. Nous ici, enfin moi, j'essaie d'être un directeur de théâtre qui m'occupe avant tout de défendre le projet que j'ai mis au point, à savoir qu'il n'y ait que des auteurs vivants, c'est-à-dire qu'ici, on représente ce qui se passe aujourd'hui dans la création dramatique des artistes d'aujourd'hui. Donc c'est en ça, en premier lieu, que consiste mon poste de directeur de théâtre. Après, il y a toute une équipe sans laquelle je ne pourrais pas faire grand-chose, qui sont des gens avec qui je travaille depuis presque 20 ans et qui s'occupent, à travers cette ligne, de faire la communication, de faire la technique, de faire l'administration, etc. Donc si vous voulez, moi, en tant que directeur de théâtre, je dirais que c'est pas commander une équipe, plutôt l'emmener dans ma direction. Et ma direction, c'est la création d'aujourd'hui.
Quel a été votre parcours pour devenir directeur et metteur en scène ?
j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait tout ça. Depuis que je suis petit, j'ai envie de, voilà, de raconter des histoires, de sortir de la réalité pour aller vers l'imaginaire plutôt. Et puis, à force de, d'écrire des choses, de représenter des choses, de faire des bêtises, de faire des tas de choses comme ça, ça a fini par me donner envie de les montrer aux autres. Et puis, je les ai montrés aux autres. Et puis, c'est trouvé que ça n'a pas déplu tout à fait. Et puis, il y a eu un enchaînement. Et voilà, les gens sont venus me voir. Et depuis que j'ai 18 ans, j'ai pas arrêté d'être dans des théâtres petits, grands, immenses comme le théâtre de la ville, petits comme le théâtre de la Bruyère. Et puis après, j'ai fait du cinéma, de la télévision et tout ça. Mais ce qui m'importait, si vous voulez, c'était de sortir un tout petit peu des règles, de sortir d'une espèce de culture totalement figée, totalement scolaire, totalement, etc. Et d'apporter un peu de choses nouvelles et d'émerveillement pour les gens.
Comment choisissez-vous les spectacles que vous programmez?
Ben, on les choisit à travers 3-4 canaux différents. D'abord, on a un comité de lecture ici qui est composé d'artistes, de créateurs, d'auteurs, et qui ont une ligne éditoriale précise sur ce qu'on aime, sur la nouveauté ici, donc qui reçoit un certain nombre de manuscrits, énormément. Ensuite, on va voir des spectacles où certaines personnes nous en proposent. Et enfin, on écrit les pièces nous-mêmes. Et on se dit que, comme on est les meilleurs, on va les produire.
Et du coup, en tant que metteur en scène, vous avez déjà montré un spectacle qui n'a pas bien fonctionné?
Oui, mais curieusement, ce n'est pas les spectacles qui ne fonctionnent pas très bien qui sont les moins bons. Parfois, il y a des spectacles, on ne rencontre pas le public, peut-être parce qu'on n'est pas en phase, parce que c'est trop tôt ou trop tard, mais il y a des échecs où on s'est trompé, où on a fait des... On n'est pas à l'abri de se tromper, comme tout le monde, mais il y a aussi des échecs qui sont des gloires. Parce qu'on a découvert, par exemple, des gens qui ont fait des échecs et qui, aujourd'hui, sont des gens que tout le monde adore.
Quelles sont les différentes étapes de préparation dans le spectacle?
Alors, la première étape, c'est l'écriture. La deuxième étape, c'est de rencontrer ou de trouver des gens à travers des auditions, ce qu'on appelle des castings, des comédiens qui correspondent et à la sensibilité, et à la nature et à l'humour des personnages. La troisième étape, c'est de les mettre en scène. Et la quatrième étape, c'est de... Enfin, en même temps, c'est quand même de produire le spectacle. La cinquième étape, c'est de le diffuser et de rencontrer la presse. Et la cinquième étape, c'est d'essayer de, après, être en connexion avec le public, faire des débats avec eux. Et la sixième étape, c'est de recevoir des élèves de seconde.
On vient d'entendre donc Jean-Michel Ribes. Comment vous l'avez trouvé? Qu'est-ce qui vous a intéressé dans les réponses qu'il vous a apportées?
À chaque question qu'on lui posait, il rentrait bien dans les détails, il nous expliquait bien son métier, comment il en est arrivé là, etc. Et du coup, ça nous a plu.
À cause de lui, je m'intéresse un peu avec le théâtre.
Alors, on a rencontré Jean-Michel Ribes, et après, c'était un moment, vous allez dire ce que vous en avez pensé, on a assisté pendant une bonne demi-heure aux répétitions d'un spectacle qui s'appelle Cadoc, qui n'a pas pu être joué, puisque bien évidemment à cause du confinement. Alors, c'est la première fois que vous voyez une répétition. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez vécu ça?
C'était très strict. À chaque erreur, il fallait tout reprendre à zéro.
On recommence, on reprend. Ça va pas. La lumière, mets-la un peu vers là et tout.
Et moi, j'ai trouvé les comédiens très courageux parce qu'ils ont recommencé je sais pas combien de fois, je crois une vingtaine de fois.
Ils ont repris plusieurs fois. Hein.
Une vingtaine de fois et c'était super.
C'était ma première expérience parce que j'étais pas habituée à regarder les théâtres, assister. C'était la première fois et j'étais très contente et j'aime beaucoup leurs efforts.
Est-ce que ça vous a donné envie de voir ce spectacle et plus généralement d'aller au théâtre plus souvent?
Personnellement, moi, je jamais à des théâtres. Du coup, voir leurs répétitions et tout, ça m'a bien donné envie, genre un moment d'y aller. Ou aussi de voir le spectacle final, de voir leurs résultats après toutes ces séances de travail.
Et puis ce théâtre du Rond-Point, il est dans un endroit particulier de Paris. Hein. Vous en avez profité aussi un petit peu?
Aux Champs-Élysées. Madame Rancia, qui travaille au CDI du lycée, elle nous a autorisé à nous promener dans Paris. Du coup, on est parti, on s'est promené, surtout que la vérité, on ne va pas souvent à Paris.
On a fait plein de photos, surtout. Hein.
Des Champs-Élysées,
ouais.
De la Seine,
entre
des
nous,
jolis ponts.
Genre, c'est un souvenir, quoi, dans tous les cas. Du coup, on s'est pris pas une dernière photo, mais une photo de nous, quoi.
Et comme on parle culture, je vous propose d'aller dans la cour du lycée. On va justement évoquer ce thème avec Yann Gallic.
Nous sommes dans la cour du lycée Voilhomme, à Aulnay-sous-Bois, sous les arbres, sur la pelouse. On en profite parce qu'il fait beau aujourd'hui. Et nous sommes toujours avec les lycéens de seconde. Vous avez tous 15-16 ans. Et cette année a été un peu particulière parce qu'on n'a pas pu tous aller sur le terrain pour faire des reportages. Mais vous avez quand même beaucoup travaillé autour de certaines thématiques. Et vous vouliez qu'on parle de votre rapport à la culture. Comment vous vous cultivez? Est-ce que déjà vous allez au théâtre? Est-ce que vous allez à l'opéra? Est-ce que vous aviez déjà mis les pieds dans un théâtre?
J'ai mis les pieds dans un théâtre que quand on faisait des sorties scolaires et tout. Et c'était que à Jacques Prévert, genre le théâtre à côté. Et sinon, non, je vais jamais au théâtre et tout.
Moi, pareil, quand il y a des sorties scolaires, mais sinon, j'aime pas trop.
Mais nous, on préfère genre les cinémas, les sorties entre copines ou entre amis et tout. Genre, on se voit pas aller au théâtre. Genre, pour nous, les théâtres, c'est un peu, pas pour les vieux, mais on va dire pour les personnes âgées un peu.
Vous allez tous au cinéma, beaucoup?
Oui, oui, beaucoup au cinéma.
Et comment vous choisissez les films que vous allez voir?
En regardant les bandes d'annonces. Après, on regarde si on aime bien ou pas. Et puis voilà, on y va.
Est-ce qu'il y a des lieux culturels où vous ne vous sentez pas accueilli? Vous vous dites, bon, on n'y va pas parce que c'est pas pour nous.
Le musée. Moi, je vais pas, moi. C'est pas pour moi.
Alors pourquoi? Pourquoi ça n'est
parce
pas pour toi?
J'aime pas regarder des portraits et tout. Genre comme ça et tout. On peut regarder sur YouTube et tout.
Ça m'intéresse pas.
Qu'est-ce qui vous intéresse pas? C'est des thématiques?
J'ai l'impression que quand on va au théâtre, il n'y a pas des sujets qui visent directement l'adolescence ou quoi. C'est plus ancien, en fait. Il n'y a pas de choses qui nous représentent. C'est pour ça qu'on n'est pas intéressé, en fait.
Comment vous vous informez quotidiennement? C'est quoi vos sources d'information?
Les réseaux sociaux. On va dire qu'il y a eu un événement grave qui s'est passé. On va regarder, par exemple, la télévision, par exemple, BFM TV, tout et tout. Mais si c'est genre... juste des trucs pas banals, mais pas très graves, bah, c'est sur les réseaux sociaux.
C'est ni l'un ni l'autre, je cherche pas trop à savoir. Des fois, tu veux pas savoir si c'est vrai ou faux, tu peux pas savoir.
Ça dépend ce qu'on te dit.
Ouais.
Ça dépend ce qu'on est. Exemple, tu disais un tremblement de terre en France, à Paris, tu te dis est-ce que c'est vrai?
Ah bah, tu regardes sur Internet. C'est différent.
Non, quand je demande aux gens, moi je regarde sur Internet. Ouais. Exemple, je tape Aulnay. Après, sur Google, il y a écrit actualité, j'appuie sur actualité et je vois toutes les actualités qui s'est passé récemment dans Aulnay.
Moi, les informations, c'est plus ce qui se passe autour de moi. Je vais pas m'intéresser à quelque chose qui est loin, on va dire.
En fait, les médias, des fois, ils parlent que de ce qu'ils veulent parler. Il y a des autres choses qui se passent dans le monde et ils en parlent même pas beaucoup. Par exemple, là, ils ont grave parlé de ce qui est arrivé à George Floyd. Mais dans le monde, il y a grave des autres discriminations et tout, mais ça, ils en parlent pas. Eux, on va dire, ils se focalisent par exemple sur le coronavirus. Ils se focalisent sur ça, mais dans le monde, il y a plein d'enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas de manger, enfin, ils n'ont pas de nourriture, ils n'ont pas de ressources, genre d'eau, et ils meurent. Mais ça, ils n'en parlent pas beaucoup.
J'ai dû dormir 4h7, je dois m'éloigner des portes de l'enfer. Mais je fais du sale comme pas permis. Tu cherches de la moula, on vit cerne. Tu veux plus de moula, on en a. La gueule drogue tu m'es vu, devine qui l'aime. Yankli jamais déçu, on sait ce qu'on ramène. Et on clip passe, et puis repasse, comme dans un défilé. Dès qu'on dépasse, et puis repasse, avec les gros filets. Des frérots tombent, les années passent, le temps fait que défiler. Et on clip passe, et puis repasse, comme dans un défilé. Dans une seule histoire, auditionne. L'OPJ fait me questionne. Pas de langue de chat, j'donne aucun soulot. Rien vu, rien entendu, c'est comme ça malheureux. Continue de parler, ouais, j'regarde l'heure sur la pendule en vrai. 48 heures passées, ouais, et j'retourne en cellule, puis on sait. Y'a aucune preuve en vrai, je le sais. Alibi solide, ouais. Je refais mes lacets, ouais, ouais, ouais. Et je continue de brasser. Les gens qui passent, et puis repassent, comme dans un défilé. Dès qu'on dépasse, et puis repasse, avec les gros filets. Des frères tombent, les années passent, le temps fait que défiler. Les gens qui passent, et puis repassent, comme dans un défilé. Tu cherches de la moula, on te visterne. Tu veux plus de moula, on en a. La gueule drogue tu m'es vue, devine qui l'amène. Et on clie jamais déçu, on sait ce qu'on ramène.
France Inter, Interclasse.
Nous sommes dans la cour du lycée Voilôme, sous trois grands pins, à l'ombre, parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Je suis en compagnie de Joyra, Yasmine, Naslata et Ajar. Et aujourd'hui, les filles, il y a un sujet qui vous tient à cœur, dont vous avez envie de parler, de débattre un peu. C'est un sujet auquel vous avez toutes été confrontées en tant que filles, c'est le sujet du sexisme.
Juste parce qu'on est des femmes, bah, des fois on nous reproche des choses. Alors qu'en fait, on est tous pareils. Par exemple, dehors, quand une femme, elle met par exemple une jupe, etc., et ben, y a des hommes, ils vont toujours ouvrir leur bouche. Alors que quand c'est des garçons, ils mettent des shorts et tout, ben, y a personne qui dit, je sais pas, les femmes, elles vont pas réagir. C'est rien, c'est normal. Ben, ça doit être pareil pour les filles aussi.
En fait, j'ai l'impression qu'on met un peu de pression sur nous. Par exemple, nous, nos mères, elles vont vouloir qu'on fasse le ménage, qu'on fasse la cuisine. Alors que nos frères, eux, ils vont être tranquilles sur le canapé.
Il y a des femmes, elles font le même métier, exactement le même, et le même travail, mais elles sont pas payées pareil que les hommes, elles sont moins payées.
C'est un sujet qui me tient assez à cœur parce que je veux dénoncer ce genre de choses, même si on en parle quand même assez maintenant. Mais je sais pas, je trouve que c'est pas assez. Parce que, je sais pas, tu marches tranquille et on a encore ce genre de remarques à chaque fois. C'est vrai que ça pèse un peu, tout le temps, tout le temps, tout le temps.
C'est pas normal pour une femme, quand elle sort le soir, de s'inquiéter, d'avoir peur, et alors qu'un homme, il est tranquille quand il sort le soir. Et ça se fait pas de faire ça. Elles ont peur d'être interpellées dans la rue, juste parce qu'elles ont mis une jupe ou un truc où on voit un peu leur peau.
C'est pas à nous de subir ça en silence, c'est à eux de changer leur mentalité.
Je pense aussi qu'il faut en parler dans les écoles, par exemple dans les écoles primaires ou au collège. Pour comme ça, on sensibilise les jeunes et aussi on peut passer par les réseaux sociaux parce qu'en ce moment, les générations de maintenant, ils passent tout leur temps sur les réseaux sociaux. Du coup, on pourrait en parler ou sinon à la télé, ils passent des messages.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
À tous les gars qui m'ont embêté, allez vous faire foutre.
Changez un peu votre mentalité parce qu'il n'y a que les ânes qui ne changent pas d'avis. On s'en fout de ce que vous pensez de nous, on fait ce qu'on veut. Voilà.
Nous sommes avec Inde, Chelsea, Jessica, Asia, Leila et Swand. Vous avez toutes travaillé autour de la thématique du racisme et des violences policières, une thématique d'actualité. Est-ce que vous avez été confrontée déjà à des discriminations ?
Personnellement, j'ai jamais été confrontée à des discriminations ou des actes racistes.
En gros, où on habite, on va dire majoritairement, on est des Arabes, on est des Noirs et tout. Enfin, genre, on va pas se traiter entre nous.
On n'est pas discriminé, mais voilà, défavorisé. Par exemple, là, je pense à l'école, parce que un 15 de moyenne en banlieue parisienne, c'est pas la même chose que dans une école où il y a que, on va dire, des blancs ou des choses comme ça, où le système scolaire il est plus avancé.
Donc toi, tu sens qu'il y a des différences en fonction des territoires où l'on habite.
Oui, j'en suis sûre.
Exemple pour les écoles supérieures. Je pense qu'ils prennent plus des élèves issus d'écoles mieux classées ou des écoles privées, etc. Moins, ils prennent moins des élèves des lycées de banlieue.
Et pourtant, il y a des gens qui viennent d'Aulnay et qui réussissent très bien. D'ailleurs, ça va être ce qu'on va entendre aussi. On peut venir d'un milieu défavorisé et réussir malgré tout dans la vie, mais c'est plus rare, tu disais.
C'est plus rare et plus dur aussi.
C'est plus difficile qu'une personne qui habite dans les quartiers huppés de Paris, par exemple.
Après, c'est aussi c'est ce qu'on nous dit à nous. Genre, on, je sais pas comment expliquer. C'est qu'on a toujours eu cette image que, en gros, ouais, ben, t'habites là-bas ou t'es à tel endroit, ben, ah, ça va être difficile pour toi après. Mais en vrai, on peut tous réussir. C'est juste qu'on on nous a toujours mis dans une situation où on nous dira que, ouais, ça va être compliqué après ou ceci, cela. Mais je pense qu'en vrai, de vrai, on pourrait tous réussir.
On peut tous réussir, mais on doit faire, nous, en tout cas, moi, je pense qu'on doit faire, par exemple, le triple ou le double que ce que des personnes dans des bons quartiers, on va dire. Et bah, ferait pour arriver dans une école ou en tant qu'ingénieur ou quelque chose comme ça. C'est ce que je pense en tout cas.
Alors j'aimerais que vous nous parliez de la personne que vous avez interviewée.
On a interviewé une jeune femme, Safia Aït-Warabi, âgée de 19 ans. Et elle a grandi dans le 19e arrondissement de Paris. Et elle est vice-présidente de l'association SOS Racisme.
Le racisme, c'est avoir une conception de la race, de l'autre et surtout la hiérarchie de la race. Donc c'est le rejet de l'autre et en plus se sentir supérieur.
Pourquoi tu as voulu faire partie d'une association qui parlait du racisme? C'est parce que tu as vécu des situations où tu as été discriminée ou c'est juste comme ça?
Moi, on ne peut pas dire que j'ai frontalement vécu du racisme. On ne m'a jamais insultée, sauf maintenant, étant donné que maintenant je milite et qu'on peut me voir dans les médias. Maintenant, par exemple, là en ce moment, j'ai plein d'insultes racistes dans mon téléphone. Mais sinon, quand j'étais jeune, j'ai jamais vraiment été réellement confrontée au racisme. Moi, mon père, il est parti de l'Algérie à cause du terrorisme en Algérie. Donc en Algérie, de 1990 à 2000, il y avait ce qu'on appelle les années noires. C'était du terrorisme islamiste. Et donc mon père est parti en France. Je suis née en 2001. En 2001, il y a eu les attentats du 11 septembre. Et puis il y a eu l'année 2015. Et l'année de 2015, elle a été vraiment décisive pour moi, et c'est ce qui a vraiment pour moi été marqueur de l'engagement, c'est qu'en janvier, du coup, on a eu les attentats de Charlie Hebdo et de l'hypercachère. Là, c'était un peu compliqué, parce que bon, ma mère, c'est pas marqué, par exemple, sur mon front que genre ma mère est juive ou que je suis juive, et pour autant, c'était compliqué. Et puis, il y a eu le 13 novembre. Et puis, vient le après. Vient le après, où tu vois les débats télévisés, où il y a écrit... la communauté musulmane a-t-elle sa place dans la République ? Et là, ça fait mal. Ça fait mal et en fait, tu grandis dans un environnement où la fraternité n'est plus et où on te dit que tes identités plurielles, en fait, elles peuvent pas vivre ensemble. Pour moi, cette actualité, elle a été douloureuse et du coup, j'ai décidé de m'engager parce que pour moi, la lutte pour l'égalité, contre le racisme, contre les discriminations, contre les gens qui diffusent la haine dans la société, pour moi, c'est un combat qui est urgent et qui nécessite une immédiateté.
Chez SOS Racisme, vous faites des opérations de testing. Comment ça se passe?
C'est SOS Racisme qui a créé ce concept et qui l'a fait émerger en France. Et à partir des années 2000, il a été reconnu comme une preuve valable devant la justice pour reconnaître le fait qu'un établissement, une boîte de nuit, une plage privée, etc., commet des discriminations raciales. Alors, comment ça se passe? C'est souvent l'été. Souvent, c'est un groupe de potes, un groupe de jeunes militants à SOS Racisme. L'année dernière, on est parti dans le sud et on a testé les boîtes de nuit et les plages privées. On a deux groupes de jeunes, on est tous habillés de la même façon et la seule chose qui peut nous différencier, c'est notre couleur de peau ou nos noms de famille. Donc, on aura un groupe blanc d'origine européenne. Après, il y aura un autre groupe qui, eux, seront mat de peau ou noirs. Typé arabe ou asiatique, avec des noms de famille d'origine étrangère. Donc, on a ces deux groupes. Et le but, c'est de tester les entrées. Donc, le premier groupe d'origine noire, arabe, ce que vous voulez, on leur refuse l'entrée, on leur dit « Non, mais il y a une invitation, vous n'êtes pas sur la liste et tout. » Du coup, ils nous recalent. Et lorsque le groupe blanc arrive, on les laisse rentrer et on leur dit rien, on leur demande pas de carton. Et en fait, c'est constater la discrimination.
Penses-tu que toutes les populations, elles sont visées par le racisme?
Alors, le racisme, en France, il vise les Noirs, les Arabes, les Asiatiques, les Chinois, des populations qui sont en minorité. Est-ce que ça concerne toutes les populations? Non, parce qu'en fait, le racisme, il est inhérent aux discriminations raciales. Les discriminations raciales, c'est à cause de votre nom de famille, à cause de votre couleur de peau, à cause de votre origine. Eh bien, on ne va pas, par exemple, vous céder un travail ou un logement. Le racisme, c'est vraiment quelque chose qui fait partie du fonctionnement de la société. Si moi, je décide de me mobiliser aussi en tant que militante antiraciste, c'est aussi pour témoigner, surtout en ce moment, ma solidarité avec les militants antiracistes américains qui sont mis en sourdine depuis trop longtemps. Et quand ils sont mis en sourdine depuis trop longtemps, et ben ça donne des affaires comme George Floyd.
Tu as parlé de George Floyd. Est-ce que tu penses que le racisme en Amérique et en France, il est au même niveau?
Ce que je sais, c'est que notre histoire, elle est différente. Parce que nous, en France, y a eu le colonialisme, mais il n'y a encore pas très longtemps. Dans les années 60 ont mis fin au système ségrégationniste aux États-Unis. Donc en fait, aux États-Unis, c'était un racisme d'État. C'est-à-dire que les lois étaient racistes. On différenciait les Noirs, les Juifs, les Blancs, machin. Et si tu veux, les États-Unis sont vraiment héritiers de ça, même encore aujourd'hui. Par exemple, nous en France, notre citoyenneté, et ça j'en suis fière, c'est qu'elle ne se définit pas sur une couleur de peau, elle ne se définit pas sur une ethnie. Donc déjà, la situation et l'histoire états-unienne, elle est différente de celle de la France.
Est-ce que tu penses que toutes les manifestations qu'il y a eu dernièrement, elles font bouger les choses?
Oui. Toutes les manifestations, elles font descendre des personnes dans la rue en disant « je suis antiraciste et je veux faire valoir mes droits ». C'est ces personnes qui vont descendre dehors, qui, avec vous, vont faire bouger les choses.
C'était Safia Aït-Ouarabi, la vice-présidente de l'association SOS Racisme. Et les filles, vous en avez pensé quoi?
Déjà, pour commencer, on va dire qu'on est un peu de la même génération.
Elle nous a dit qu'elle était entrée dans l'association SOS Racisme à l'âge de 17 ans. Du coup, elle était au lycée, en première. Et c'est vrai qu'elle était inspirante, la manière dont elle parlait, dont elle pensait. C'est vrai qu'on partage un peu les mêmes idées, les mêmes pensées.
I pull up, like, how you pull up, baby? How you pull up? How you pull up? I pull up.
Self in the kitchen.
Let's go. Brand new Lamborghini, fuck a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop.
Yeah.
Have you ever met a real nigga rock star? This ain't no guitar, bitch, this a Glock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. You better let me go the day you need me. So bitch, put me on that nigga, get the bus. And if I ain't enough, go get the chop. It's safe to say I earned it, ain't a nigga gave me nothing. I'm ready to hop out on a nigga, get the bus. Know you heard me say you play, you late, don't make me push the butt. Full of pain, dropped enough tears to fill up a fucking bucket.
Going for buggers, I bought a chopper. I got a big drum to hold a 100. Going for nothing, I'm ready to air it out on all these niggas, I can see I'm running.
She talked to my mom, she hit me on FaceTime just to check up on me and my brother. I'm really the baby, she know that the youngest son was always guaranteed to get the money. Okay, let's go.
She know that the baby boy was always guaranteed to get the loot. She know what I do, she know if I run from a nigga, I'ma pull it out, shoot. PTSD, I'm always waking up a cold sweats like I got the flu. My daughter a G, she saw me kill a nigga in front of her before the age of two. And I'd kill another nigga too. Before I let another nigga do something to you. As long as you know that, don't let nobody tell you different, daddy love you.
Let's go. Brand new Lamborghini, fuck a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop.
Yeah.
Have you ever met a real nigga rock star? This ain't no guitar, bitch, this a Glock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. You better let me go the day you need me. So bitch, put me on that nigga, get the bus. And if I ain't enough, go get the chop.
Keep a Glocky when I ride in the Suburban. Cause the codeine had a young nigga swerving. I got the mop, watch me wash him like detergent. And I'm ballin', that's why it's diamonds on my jersey. Slide on outside and flip the block back, yeah, yeah. My junior popped him and left him lopsided, yeah, yeah. We spin his block, got the rebound in his robin. Yeah, for me one time, you can't cross me again. 1200 horsepower, I get lost in the wind. If he talking on it, y'all depend, dolls will take his chin. Maybach SUV for my refugees. 5 blocks in the hood, put money in the streets. I was solo and the ops caught me at the gas station. Had it on me 30,000, thought it was my last day. But they ain't even want no smoke. If I had to choose it, murder would she roll?
Let's go. Brand new Lamborghini, fuck a cop car. With a pistol on my hip like I'm a cop.
Yeah.
Have you ever met a real nigga rock star? This ain't no guitar, bitch, this a Glock. My Glock told me to promise you gon' squeeze me. You better let me go the day you need me. So bitch, put me on that nigga, get the bus. And if I ain't enough, go get the chop.
France Inter, Interclasse, lycée Voillaume à Aulnay-sous-Bois.
Cette émission d'Interclasse touche à sa fin. Nous sommes avec l'équipe enseignante qui nous a accompagnés cette année au lycée Voillaume, avec Delphine Rancillac, professeure documentaliste, Marion Aline, professeure de français, et Céline Filouze, professeure d'anglais. Cette année, nous avons travaillé avec une classe de seconde sur ce projet interclasse et une grande partie de la classe a répondu présente, malgré le confinement.
Je pense qu'ils étaient aujourd'hui, jour final de l'enregistrement, encore assez nombreux. Et ils ont, dans les petits groupes dédiés au reportage, ils ont continué le travail assez sérieusement, y compris pendant la période du confinement, ce qui n'était pas facile, puisque vous-même, vous avez dû adapter, faire des interviews à distance, etc.
Je me tourne vers Delphine Rancillac, puisque ça fait maintenant 4 ans que nous travaillons ensemble ici au lycée Voilôme à Aulnay-sous-Bois. Sur ce projet Interclasse, c'est notre 4e saison ici. Qu'est-ce que ça apporte, selon vous, Delphine, aux élèves, ce projet ?
Les débuts sont un peu compliqués parce que voilà, le journalisme, ça leur fait un peu peur, c'est impressionnant, vous êtes une grande radio. Mais dès qu'on crée le lien, ils sont toujours très appliqués à faire leur reportage. Même si on crée pas forcément des vocations, tous les élèves sont toujours très contents de ce qu'ils ont accompli pendant l'année. C'est toujours quelque chose de très beau à voir à la fin. Et cette année, plus particulièrement avec le confinement et tous les questionnements forcément que ça a amené, on a dû s'adapter et on est vraiment très heureux d'avoir pu terminer. C'était une belle journée aujourd'hui.
C'est important aussi pour vous, professeur, d'avoir cette opportunité de faire de l'éducation aux médias, puisque on sait que le rapport des plus jeunes aux médias traditionnels, en tout cas, peut être un peu compliqué, avec pas mal de défiance, pas mal d'interrogations aussi sur comment distinguer le vrai du faux dans l'actualité. Céline Filouz, professeur d'anglais.
Ils arrivent souvent en classe en nous demandant « Madame, j'ai entendu ça à la télé, est-ce que c'est vrai ?» Donc, ou à la radio, ou sur les... Enfin, plutôt les réseaux sociaux, en fait, parce que c'est ceux sur quoi ils sont le plus, ils sont plus connectés à ces réseaux sociaux-là. Et c'est vrai qu'en plus, en anglais, tout ce qui est fake news, ça les intéresse d'autant plus, parce que c'est vraiment, ils donnent tout le temps les exemples de, mais Donald Trump, il a tweeté ci ou ça. Et donc, c'est important pour nous d'arriver à leur faire discerner les informations qu'ils lisent sur les réseaux sociaux, sur Instagram, ce genre de choses. Et donc, pour nous, c'est très important de leur faire comprendre que c'est pas parce qu'ils l'ont lu quelque part que c'est forcément vrai, le faire s'interroger sur « mais vous l'avez lu où ?»,« qui était l'auteur ?», tout ça, c'est vrai que c'est pas des choses qui sont innées pour eux. Enfin, c'est important de leur faire comprendre, ouais.
Ce qui est important, c'est qu'ils connaissent pas du tout le métier de journalisme, en fait, quand vous arrivez. Et ce qui est chouette dans ce projet, c'est qu'on prend toujours le temps, en début d'année, de discuter, vous leur expliquer en quoi consiste votre métier. Et puis après, ils l'expérimentent, en fait, par eux-mêmes. Et ça recrée, je pense, une relation de confiance, en fait, avec les gens qui signent et écrivent les articles ou passent à la radio. Voilà, ils savent comment se construit l'information.
Je pense que ce qui est vraiment très formateur pour eux, c'est de découvrir votre métier, en fait, et de constater qu'un reportage de 2 minutes 30 ou 3 minutes se construit en 3 mois, en tout cas dans le cadre d'interclasse, et que c'est toute une série d'étapes, de procédures, de réflexions, de discussions qui amènent à l'interview. Et en voyant que on n'invente pas des mensonges comme on veut, en fait. C'est pas simple de construire un reportage. Et les fake news, c'est pas des choses qu'on peut construire n'importe comment et diffuser de la façon la plus simple possible.
Interclasse, même avant tout, avant l'éducation aux médias, c'est des rencontres. Ça permet à nos élèves de rencontrer des gens et ça permet à des gens de rencontrer nos élèves aussi. Et on apprend toujours du contact avec l'autre, de la rencontre avec quelqu'un de différent. Voilà. Rien que pour ça, c'est un beau projet et une belle expérience pour tout le monde.
C'était Interclasse à Aulnay-sous-Bois.
Production et rédaction en chef, Éric Valmire.
Réalisation, Lilian Allôme.
Prise de son, Frédéric Kéhou et Nicolas Mathias.
Équipe France Inter, Yann Gallic, Vincent Pellegrini, Fanny Crouzet, Elodie Wilfried,
Patricia Martin
et l'Institut pratique du journalisme.
Programmation musicale, Jean-Baptiste Audibert
et les élèves d'Interclasse.
Équipe lycée, Delphine Rancillac, Fanny Sénimon, Marion Aline, Céline Filouz, Mathilde Boucharinque.